Donc je vais commencer avec une citation de Ben Jura sur l'agentivité. Donc selon lui, c'est toute action qui comporte parmi ses déterminants les influences produites par le sujet lui-même. C'est donc le pouvoir que l'on s'autorise à avoir, à exercer en ayant pleinement conscience de soi. Dans son roman autofictionnel, La vie sexuelle de Catherine M., Catherine Millet nous offre sa perspective ambiguë de l'agentivité avec un personnage en construction. Comme nous le verrons, Catherine est un personnage difficilement définissable. Cependant, au fil de la lecture, on assiste justement à son agencement. Le roman publié en 2001 peut être considéré comme étant post-pornographique. L'autofiction de Millet déconstruit et dénaturalise la pornographie classique. Catherine Millet, l'auteur, nous communique une vraie perspective artistique du corps, de l'autre et de la vérité du sexe. Si l'on considère cette autofiction comme une réelle œuvre d'art, au sens strict du terme, nous obtenons alors Catherine, la narratrice, en tant que produit, observant ce qu'elle fait et ce qu'elle devient en faisant. Comme toute œuvre, elle évolue et se transforme. De plus, il est clairement montré dans ce roman que la norme sociale, sexuelle, n'a aucune légitimité. Il surprend au premier abord et mérite réflexion. Dans cette présentation, je propose de me pencher plus particulièrement sur les questions de légitimation du personnage à travers le regard artistique qu'incarne le personnage de Catherine. Pour cela, nous étudierons tout d'abord Catherine en tant que sujet pornographique et post-pornographique, pour ensuite nous intéresser à l'importance qu'elle donne au regard. Et enfin, nous terminerons sur la question de son agentivité ambivalente. Pour commencer, le livre se présente en quatre parties. Le nombre, l'espace, l'espace replié et la dernière partie, détail, qui elle-même est recoupée en sous-parties. Il ne s'agit pas d'un ordre chronologique, mais plutôt d'un thème général que Millet aborde au fil du récit. L'auteur de 53 ans à l'époque, critique d'art et fondatrice de la revue Art Press, référence du monde de l'art contemporain, nous dévoile ici sa vie sexuelle, aussi bien privée que publique. Ses fantasmes, ses habitudes, mais encore plus important, la découverte de son corps. L'écriture de l'auteur est particulièrement surprenante, autant pour le lecteur que pour son auteur, puisque Millet le soulignera dans les premières pages du texte, et je cite, « Jusqu'à ce que naisse l'idée de ce livre, je n'ai jamais trop réfléchi sur ma vie sexuelle. » Fin de citation. Elle n'utilise pas de langage obscène et reste plutôt dans la description purement factuelle. Le vocabulaire utilisé est précis, quasi clinique et toujours objectif. Tout comme elle expose ses fantasmes, en disant pourtant, je cite, « Les fantasmes sexuels sont bien trop personnels pour qu'on puisse vraiment les partager. » Fin de citation. Tout en ayant auparavant décrit ses fantasmes d'enfant et expliqué que sa vie sexuelle était aussi épanouie car ses fantasmes n'avaient jamais été refoulés. Puis elle nous exprimera ensuite ses fantasmes illustrant alors une position plutôt post-pornographique, ici puisque différent de ce qu'englobe la pornographie classique. Elle explore de nouvelles zones érogènes, parle de ses expériences sexuelles classiques comme les partouzes, ou bien d'expériences plus taboues comme la scatophilie, la zoophilie ou encore son désir de prostitution et recherche sa jouissance. Catherine se contredit, sinon se corrige et revient sans cesse sur ses dires, ses envies, ses faits. Elle se cherche, dit une chose puis son contraire. On assiste donc ici à l'idée du sujet sans cesse déconstruit puis reconstruit. C'est de cette façon qu'elle remet en question la vérité du sexe ou bien ce que l'on pourrait aussi considérer comme la norme sexuelle hétéronormative. Elle parle aussi de ses conversations avec Jacques qui, je cite, « se caractérisent par leur mode purement factuel ». Fin de citation. C'est la façon dont elle écrit. Elle écrit des faits, comme si elle était directement prête à assumer sa vie sexuelle, donnant aussi une dimension artistique à son œuvre, une dimension post-pornographique. En tant que femme, elle affirme ses désirs et nous les livre sans détour. Dans cette section, nous avons vu que Catherine se dévoile comme un sujet en construction. Elle est alors faite de contradictions. Même lorsqu'elle parle du plaisir de jouissance, elle exprime aussi par un ressenti antinomique d'être remplie de vide, et je cite, « envahie, oui, mais de vide ». Fin de citation. Un plaisir si intense qu'il viderait complètement le corps. Comme l'exprime Lacan, il s'agit alors de ce désir incapable d'être satisfait par une demande. Voilà pourquoi Catherine se sent envahie de vide. Elle ne peut combler ce désir, si fort soit-il, de jouissance, puisque ce désir crée lui-même automatiquement un manque. Les fantasmes sont alors une autre façon de satisfaire ce désir. Voilà pourquoi ils sont si présents dans le récit de Millet. Catherine tente tout au long du récit de satisfaire ce désir. Le regard est alors une des clés qui le satisfera partiellement. Elle porte un intérêt tout particulier à raconter ce qu'elle voit, ce qui l'entoure, mais aussi l'autre, ce qu'il fait, comment elle le perçoit. Elle analyse dans la partie espace cette relation spéciale qu'elle entretient avec ce qui l'entoure. Elle ressent un certain réconfort dans le noir. Je cite, « On pense aussi que l'obscurité protège », dit-elle lorsqu'elle est dans le bois. Pourtant, plus tard, elle fera part d'expériences sur un banc et l'excitation ressentie alors qu'elle se sent observée. Ici encore, elle est en contradiction, construction de sa personne. Elle aime beaucoup se regarder et être regardée, ce qui nous ramène à la dimension visuelle de l'œuvre. Elle aime voir ses positions, la position de son corps dans le miroir, son anatomie, ou encore observer les mouvements de l'autre sur son corps. Je cite, « Savoir qu'on examine attentivement ce que je ne peux voir est tout aussi tonique. » C'est que je ne sais pas bien quitter mon regard intérieur pour me voir même. Il me faut précisément passer par le regard de l'autre. » Fin de citation. Catherine profite ici de la pulsion scopique, avec laquelle on prend du plaisir simplement parce que l'autre nous regarde. On assiste ici à ce que Lacan appelle le désir de l'autre, puisqu'il considère que, je cite, « le désir du sujet est le désir de l'autre ». Elle se trouve changée pendant l'acte. Comme nous l'explique Lacan, il y a un effet miroir du désir. La façon dont se voit Catherine reflète ce qu'elle voit dans l'autre. C'est justement ce reflet qui excite Catherine, l'image que lui renvoie l'autre, cette sensation que l'autre la désire et ce qui l'amène à la jouissance. Elle est alors son propre objet de désir. On voit ici donc un narcissisme qui est nécessaire à sa construction. Finalement, la notion de regard prend un tournant encore plus important à la fin du roman, puisque Catherine se voit enfin entièrement, lorsque son mari lui montre le film qu'il a pris d'elle. Elle prend pleinement conscience de son corps, de son être. Et Morello conclut sur ce sujet que, je cite, « From the observation of static images to that of moving images, from hesitation to affirmation, and finally from the other to the self as subject of the gaze, the text signals that le regard sur soi no longer needs to transit through the male gaze. » La pleine conscience de son corps déclenche sur Catherine une excitation. Comme si le fait qu'elle se voit enfin complètement apportait la dernière pièce de son puzzle pour qu'elle puisse jouir pleinement de son être. Cette étape finale peut être très facilement rapprochée du stade appelé miroir chez Lacan, soit l'enfant qui jouit de la découverte, et je cite, de l'image harmonisée de son corps. Cette unification du sujet nous ramène à la question du sujet qui justement se crée au fur et à mesure du temps, comme on peut le constater avec Catherine. On assiste à cette construction dans l'autofiction de Millet, car Catherine est un personnage ambigu. Elle est très certainement un personnage qui ne répond pas tout à fait aux normes hétéronormatives qu'impose la société, puisqu'elle pratique le sexe partout et avec tout le monde. Serait-elle alors un personnage queer ? Berlin et Warner, dans leur article « Sex in Public », soulignent que, je cite, « Its conventional spaces presuppose a structural differentiation of personal life from work, politics, and the public spheres. The normativity of heterosexual culture links intimacy only to the institution of personal life. » C'est en ajoutant cette description liant la vie sexuelle avec la notion de privé et de distanciation de la vie publique que l'on constate que Catherine ne respecte définitivement pas cette norme hétéronormative, puisqu'il n'y a chez elle aucune différenciation entre sa vie privée sexuelle, d'ailleurs, en a-t-elle une, et sa vie publique sexuelle. Catherine pratique le sexe dans tous les espaces que lui offre sa vie, chez elle, au travail, dans des lieux publics ou encore en pleine nature. Catherine pratique une sexualité queer puisqu'elle ne suit pas la norme hétéronormative et qu'elle tire complètement avantage de l'espace qui l'entoure. L'espace et la lutte pour obtenir un espace intime occupent d'ailleurs une place centrale dans l'imaginaire de la narratrice depuis sa tendre enfance. Je cite, « On comprendra que j'ai à ce point associé l'amour physique à une conquête de l'espace quand on saura que je suis née dans une famille qui logeait à 5 dans un appartement de 3 pièces. La première fois que j'ai quitté cet endroit, j'ai donc baisé pour la première fois. » Fin de citation. Dans la notion d'espace que nous donne Catherine, on distingue alors deux entités, celle du corps et celle de l'esprit. Il existe cependant un troisième espace qui est celui de l'extérieur. Je cite Morello, Catherine M. Sexual or subjectivity is represented metaphorically as a continuous process of negotiation between three changeable spaces, the space of the body, the space of the mind, and the outer space. Selon Morello, donc, Catherine se positionne en tant que sujet lorsqu'elle trouve un équilibre entre ces trois espaces. Pourtant, au premier abord, le lecteur peut clairement penser que Catherine se positionne en tant qu'objet. Elle est très souvent soumise dans ses positions sexuelles, aussi bien que dans le choix de ses partenaires, qui est quasi inexistant puisqu'elle participe à des partouzes et ne connaît pas ses partenaires la plupart du temps. En fait, le seul partenaire qu'elle connaît, c'est Jacques, son mari. On retrouve donc ici l'affirmation que Catherine n'est pas toujours en position de sujet et correspond même parfois à des clichés de la pornographie, ce qui est bien entendu en contradiction avec l'image qui se dégage du roman dans son ensemble. Comme le constate Morello tout au long du roman, Catherine n'est en effet jamais complètement en position d'objet, puisqu'elle reste maîtresse de ses désirs et qu'elle ne se voit jamais forcée de quoi que ce soit. Il semblerait même que les rôles soient inversés ici, puisque tout d'abord, nous avons bien entendu un point de vue féminin venant de la narratrice, et je cite Morello à nouveau, « Men are moreover often dehumanized as they are reduced to mere shadows. » As Jean-Paul Guichard puts it, « Millet annule la réalité de l'homme dès lors qu'il prétend être autre chose que l'instrument temporaire d'un plaisir dont elle cherche la continuité. » Fin de citation. C'est donc en cela que l'on constate que le personnage de Catherine fait pleinement partie de ce mouvement qu'est la post-pornographie et qu'elle s'érige ici en sujet en objectifiant les hommes. Au contraire de ce qu'offrait la pornographie, c'est-à-dire une recherche de la jouissance masculine couronnée normalement avec l'éjaculation finale, ici, Millet nous offre un personnage féminin totalement maître de ses désirs et qui parfois même utilise l'homme pour arriver à ses fins. Ainsi, le personnage de Catherine ne s'objectifie ni se soumet aux désirs de l'homme et ne correspond alors pas aux attentes de la pornographie. Et même lorsque Catherine est en position de soumission, elle l'a choisi. Soit parce qu'elle veut être capable de voir son partenaire, ou bien de se voir, mais sa position de soumise n'est jamais à prendre au premier degré puisque choisie. En conclusion, la gentilité de Catherine dans ce roman est donc totalement ambiguë. Comme on l'a vu, elle est parfois sujet et parfois objet. Pourtant, il ne peut être nié que le roman, de par son écriture, donne alors le plein pouvoir à notre écrivaine quant à son agentivité. Ce que fait Catherine avec son roman, c'est exactement ce que décrit Toril Moy dans son article « I'm not a woman writer about women, literature and feminist theory today », lorsqu'elle dit, et je cite, « Women must write, but when they write, they must not think of themselves as women. Strident sex consciousness prevents good writing. » Fin de citation. C'est donc ce que fait Catherine ici en se subjectivisant et en se positionnant complètement à l'opposé de ce qui est attendu par une femme dans la société du XXIe siècle. Catherine ne se positionne pas en femme. Elle objectivise l'homme le plus souvent et répond à ses désirs avant de répondre aux désirs masculins. La gentilité de Catherine devient encore plus flagrante à la fin du roman lorsqu'elle prend pleinement conscience de son corps. Comme le souligne Bersani dans son article « Sociality and Sexuality », je cite, « The subject imaginary mastery over its own body in the mirror stage is also, Lacan writes, an anticipation of psychological mastery, one that will leave its mark on every subsequent exercise of effective motor mastery. » Fin de citation. La prise de conscience finale de Catherine, sa jouissance finale, vient alors légitimer l'œuvre dans son intégralité.